Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, objectif, raison d'être, Cyrielle Ariel.
Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Raison d'être. C'est parti pour cette nouvelle saison et ça commence à la REF du MEDEF. Alors cette année, la rencontre des entrepreneurs de France commence avec cette thématique, l'Eurovision. Pour cette spéciale d'Objectif Raison d'être, je vous propose une multivision multisectorielle. On reçoit Etam, L'Oréal France et Hyundai. Ils sont là, ils sont trois et ils s'engagent.
BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.
Bonjour Laurent Milchior, vous êtes co-gérant du groupe multimarque Etam. Vous êtes présent dans 52 pays. Merci beaucoup d'être présent pour cette spéciale. À vos côtés, on retrouve Elodie Bernadi. Vous êtes la directrice du développement durable de L'Oréal France. Et ensuite, à vos côtés, on termine avec le PDG de Hyundai, avec Lionel French Kyo. Alors tous les trois, je vous connais. Vous êtes déjà passé dans Objectif Raison d'être. Vous vous êtes fait challenger. Mais on va tout de suite commencer avec la raison d'être. Il y a du nouveau, je crois, Laurent Milchior, du côté du groupe Etam avec votre raison d'être.
D'ailleurs, merci Cyrielle pour cette invitation. Il y a du nouveau. En fait, on a réussi à pondre, on va dire, notre raison d'être avec, après un long travail avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, nos clients, et 6 mois de, un peu plus de 6 mois de travail. Et on a réussi à établir une raison d'être pour l'ensemble des marques du groupe. Le groupe, c'est cinq marques, un peu moins que
chez L'Oréal. Etam, Yundiz et Lisée.
Tout à fait. Et donc, la raison d'être du groupe, c'est séduire le monde avec respect en cultivant les singularités.
Pourquoi c'est important justement dans le groupe de trouver cette raison d'être aujourd'hui en 2022?
Alors je pense d'abord que c'est important pour les collaborateurs d'avoir un sens au quotidien, de savoir dans quelle direction on va, de porter notre projet, nos projets RSE aussi au sein de cette raison d'être et d'écrire quelque chose dans la durée. Alors on n'est pas encore entreprise à mission, on n'est pas encore Bicorp, on travaille sur tous ces sujets, j'ai envie de dire surtout la capacité à devenir Bicorp, et c'est important de donner un cap, et un cap qui correspond à toutes les marques. Donc c'est un espèce de chapeau ombrelle, et ensuite chaque marque va devoir la travailler et la façonner à sa façon.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, à l'ère, voilà, en 2022, 2 ans après la post-Covid, après la COP21 qui s'est déroulée en 2015, on peut dire que la RSE prend de l'ampleur, la raison d'être des entreprises, pour notamment fidéliser les collaborateurs, mais aussi peut-être aussi fidéliser les consommateurs et consommatrices?
Alors j'ai envie de dire, je dirais qu'aujourd'hui, plus que fidéliser les consommateurs et les consommatrices, c'est les éduquer aussi et apprendre aux consommateurs à consommer différemment et à consommer mieux. Parce qu'aujourd'hui, on rentre quand même dans une ère de sujets de pouvoir d'achat très important, surtout à nos niveaux de prix. Et donc les consommateurs, ils font des arbitrages. Donc notre enjeu, nous, c'est d'arriver à vendre des produits au même prix, qui soient beaucoup plus responsables et en majorité de notre offre, pour converger vers une offre à 100%.
Ouais, ce qui est important, Lionel, c'est qu'en fait aujourd'hui les gens n'achètent plus une marque dont ils ne partagent pas les valeurs. Donc c'est important effectivement que notre manière de communiquer ces valeurs-là soit claire pour nos collaborateurs, mais aussi claire pour nos consommateurs, pour que finalement ils puissent se retrouver dans la marque qu'ils vont consommer. J'imagine que ce soit pour des vêtements ou que ce soit pour des produits cosmétiques.
Mais justement, Lionel French Kyo, quelle est la raison d'être de Hyundai?
Alors des trois invités aujourd'hui, je suis le seul représentant d'un groupe étranger. Alors ça va être en anglais, je suis désolé. C'est Progress for Humanity. Et je vais le traduire de deux manières, ou en tout cas je vais l'expliquer de deux manières. Progress dans le sens progression, comment on fait finalement pour améliorer l'environnement dans lequel on est. Et progress dans le sens mouvement, parce qu'évidemment on est une marque automobile. Notre challenge à nous aujourd'hui, c'est de finalement continuer à mettre le monde en mouvement, alors que, on va dire, devant nous, le sujet de la mobilité est un sujet un peu chiffon rouge aujourd'hui pour beaucoup de pays, ou en tout cas beaucoup de politiques notamment.
Est-ce que vous le remarquez également dans votre domaine en tant que constructeur étranger, que le côté raison d'être, le côté décarbonation, on va ensuite creuser le sujet de l'automobile, c'est un enjeu qui prend de la place aussi bien pour les collaborateurs mais aussi vos consommateurs?
C'est évident qu'une marque comme la mienne, elle n'aurait pas pu se développer sur le marché français comme elle l'a fait sur les dernières années, si finalement elle n'avait pas amené simplement autre chose que ses concurrents. Et c'est vrai qu'on est arrivé avec des technologies très importantes sur l'électrique, l'hybride et l'hybride rechargeable, beaucoup plus que nos concurrents, ce qui a fait que, effectivement, en l'espace de 3 ans, on a doublé notre part de marché sur le marché français. Donc c'est clair aujourd'hui qu'un consommateur en France, il est à la recherche de valeurs, notamment écologiques, évidemment, et c'est ce à quoi on a répondu.
Merci beaucoup. Maintenant, on va passer enfin au tour des cosmétiques avec Élodie Bernadi. Alors concrètement, L'Oréal a déjà trouvé sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde. C'est bien ça aujourd'hui.
Absolument.
Comment vous, voilà, quels sont vos projets aujourd'hui dans un groupe de cosmétiques quand on est le leader de la beauté? Parlez-nous de votre programme.
Oui, alors effectivement, nous, cette raison d'être, elle est hyper importante parce que vous voyez bien, dans Créer la beauté qui fait avancer le monde, il y a cette volonté quand même de L'Oréal et des collaborateurs de s'inscrire dans le futur, quoi. Et vraiment dans le futur de la planète et d'y prendre une part très importante. Alors effectivement, on est le leader de la beauté. On a une grande responsabilité dans la transformation de cette industrie et on veut y prendre vraiment une pleine part. Et voire même, on a la volonté aussi même d'aller presque au-delà de notre industrie cosmétique. On est aussi un grand groupe du CAC 40. Et on a envie aussi de mettre notre puissance médiatique, notre puissance financière au service de la cause au sens large. Et c'est vrai que quand on a publié notre engagement de développement durable en juin 2020, on a aussi créé un fonds qui s'appelle le Fonds L'Oréal pour le futur, dans lequel on soutient 3 grands sujets.
150 millions, non ?
150 millions, absolument, d'euros. Le premier pour dédié aux femmes en situation de grande vulnérabilité, souvent liées aux enjeux climatiques. Et ça, c'est un fonds vraiment de mécénat. Et ensuite, 2 fonds à impact. Le premier pour préserver la biodiversité et le deuxième pour soutenir l'économie circulaire. Et d'ailleurs, sur le fonds qui est dédié à la biodiversité, on soutient une start-up française qui s'appelle Rise. C'est tout nouveau, c'est une start-up qui est incubée à Station F et qui vise à aider les agriculteurs à décarboner leur activité. Donc vous voyez qu'on n'est pas collé serré à nos enjeux, nous, industrie cosmétique, mais c'est vraiment cette idée de contribuer au-delà de notre périmètre.
On va rentrer ensuite dans le vif du sujet également concernant les innovations de votre secteur, surtout quand on est leader. On va revenir à Etam. Alors, vous avez développé, Laurent Milcœur, votre programme développement durable RSE qui s'appelle We Care. Vous revendiquez vendre 28 millions de produits We Care chaque année. Et vous, surtout, l'enjeu, c'est l'intégration de matières innovantes. On le rappelle, avec les derniers chiffres de l'ADEME, chaque année, l'industrie du textile, l'une des plus polluantes, émet plus de 1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre et l'une des matières pointées du nez, ça reste quand même le polyester. Alors vous, concrètement, comment ça se passe? Je vois qu'il y a des innovations, vous faites également, vous avez des nouveaux procédés waterless où on économise l'eau, on va également le croiser avec la cosmétique. Aujourd'hui, ça devient un véritable enjeu, l'intégration des nouvelles matières, on met moins d'eau, c'est quoi les nouvelles, les nouveautés?
C'est évidemment je pense que le premier enjeu, c'est le CO2. Aujourd'hui, on a vu l'été qu'on a vécu partout sur la planète depuis 3 mois, que ce soit au Pakistan ou après en Europe, et les incendies, etc. Et donc cette réduction de CO2, elle passe par moins de produits, des produits qui génèrent moins de gaz à effet de serre et un recyclage au maximum de la ressource rare sur notre planète. Donc aujourd'hui, on a 55% de nos produits qui sont dits We Care, c'est-à-dire que la matière principal est conçu à plus de 50% avec des produits ou recyclés ou biologiques. On a également une transparence pour nos consommateurs, hein, de montrer dans quelle usine produit. Donc toutes nos usines de rang 1 sont disponibles et avec un QR code, en scannant le QR code avec son smartphone, en fait, on a la vidéo et le détail de l'usine dans laquelle son produit est fabriqué pour l'intégralité de notre offre. Et donc ça passe on vient de monter une usine en Tunisie, donc on s'est rapproché pour réduire les temps de transport, pour relocaliser. Alors on peut pas malheureusement à nos prix et la quantité de main-d'œuvre qu'il y a dans un soutien-gorge relocalisé en France, mais avec un petit atelier qui fera 1 million de pièces, 150 collaborateurs. On va sublimer les dentelles, donc au lieu de les teindre, donc avec beaucoup de rejets d'eau et des temps assez longs, on est capable aujourd'hui de les imprimer. Donc du coup, ça, on gagne du temps et on gagne énormément de rejets d'eau, l'eau qui est une ressource extrêmement, extrêmement rare. Donc on travaille comme ça l'intégralité de notre process. On a d'ailleurs dans le nord de la France encore un tech center avec une centaines de personnes qui travaillent sur l'innovation de la supply chain, enfin de la chaîne d'approvisionnement et du sourcing.
Donc ici, j'entends traçabilité, matériaux recyclés, waterless, des enjeux également qui touchent le secteur de la cosmétique. Elodie Bernardi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que vous avez des enjeux de transparence. On doit dire également d'où viennent les produits. On doit voir tous les ingrédients au niveau des formules. Expliquez-nous. Et pareil, vous avez lancé un après-shampoing sans rinçage. Parce que là aussi, on parle d'économie.
Ouais. Alors nous, notre programme de transformation, il s'appuie vraiment sur quatre piliers. Je vais rejoindre vraiment ce qui vient d'être dit. D'abord, c'est décarboner notre activité. Donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est avoir un usage raisonné de l'eau dans nos procédés de fabrication, mais aider nos consommateurs aussi à réduire leur consommation en eau. Et ça va rejoindre le sujet du waterless et donc de l'énergie. Ensuite, le troisième pilier, c'est préserver la biodiversité. Ça se joue beaucoup sur nos politiques de sourcing de matières premières. Et enfin, effectivement, faire rentrer notre entreprise dans l'ère de l'économie circulaire et donc sortir des ressources non renouvelables. Et ça, c'est énormément nos politiques de transformation packaging. Alors, pour revenir sur un des piliers que vous évoquiez, qui est le waterless, en fait, la particularité de l'industrie cosmétique, c'est que 46% de ces émissions de gaz à effet de serre résident dans la phase d'usage de nos produits. C'est-à-dire l'énergie que nos consommateurs vont utiliser sous la douche pour rincer leur shampoing et rincer leur gel douche. Et nous, on a pris notre part de cette consommation-là et de réduire cette consommation. Et dans notre programme, on s'est engagé à ce que d'ici 2030, on aide nos consommateurs à réduire de 25% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe par l'innovation. Donc vous avez parlé des conditionneurs sans rinçage, des démêlants sans rinçage de la marque Ultradoux qu'on a lancé en janvier dernier.
Qui on enlève le plastique sont également.
Effectivement, donc n'ont plus besoin d'être rincés. Donc on zappe complètement une étape sous la douche. Effectivement, ils sont dans des tubes éco-conçus qu'on a travaillé avec un de nos fournisseurs partenaires qui s'appelle Albea. Donc on réduit de 50% aussi le poids de plastique. Et rien que l'usage de ces conditionneurs sans rinçage permet d'économiser en moyenne 100 litres d'eau par tube. Donc voilà, ça fait partie des grandes innovations sur lesquelles on veut continuer à tirer le fil. Et puis les technologies qu'on appelle nous hautement rinçables, ça aussi on veut continuer à les tirer. C'est typiquement la génération des shampoings solides qu'on a lancé sur Ultradoux, qu'on a lancé sur Dope. On a aussi de la cosmétique solide sur une marque de notre division luxe qui s'appelle Kiehl's.
Et ça donne quoi ce premier bilan sur justement les produits solides?
Alors c'est les shampoings solides.
C'est pas évident.
Ouais, c'est un nouveau marché, c'est un nouvel animal. Parfois, ça fait un petit peu peur. C'est un petit objet aussi dans les linéaires. Donc, faut qu'on le voit. Un linéaire de shampoing dans un hypermarché ou un supermarché français, c'est énorme. C'est des gros flacons, des gros bidons. Donc, les petits shampoings solides, il faut les faire émerger. Donc, il y a un véritable enjeu avec lequel on discute beaucoup d'ailleurs avec nos clients de la grande distribution.
Ensuite, il y a une question, puisqu'on parlait d'éducation tout à l'heure des consommateurs. Et finalement, je pense que c'est un enjeu pour tous.
Absolument.
Les trois. Et donc, au final, probablement que ça nécessite, que ça soit pour vous ou pour nous d'ailleurs, parce que c'est à peu près la même chose quand on parle de nouvelles techno, d'expliquer aux gens, parce que finalement, les changements ne s'opèrent pas naturellement. Enfin, en tout cas, j'ai pas ce sentiment-là. Même s'il y a une appétence aujourd'hui pour l'écologie qui est de plus en plus forte, on voit bien que finalement, les changements s'opèrent pas, ou en tout cas, sont longs à venir. Et c'est vrai que finalement, pour accélérer cette logique d'éducation que vous évoquiez tout à l'heure, pour moi, elle est cruciale et on la retrouve au démarrage, effectivement, quand on innove, et ensuite, d'ailleurs, comment on est capable d'expliquer les innovations. Et finalement, c'est le double challenge, et parfois, c'est parfois plus simple, finalement, d'innover que d'expliquer les innovations.
Mais je suis complètement d'accord avec vous, et nous, c'est vrai que, du coup, on se pose beaucoup la question chez L'Oréal de comment il faut communiquer maintenant, en fait. Quel est le rôle de la publicité? Et effectivement, nous, il y a un mot qu'on aime beaucoup, qui est effectivement ce mot de pédagogie. Il y a aussi le mot de nudging.
Vous passez beaucoup par les réseaux sociaux aujourd'hui, par des
Absolument.
Influenceurs. Comment ça se passe?
C'est vrai que les réseaux sociaux, pour nous, c'est assez génial parce que on est en contact direct, en fait, avec nos consommateurs. Donc, on a des feedbacks hyper directs. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Typiquement, sur les shampoings solides, on a beaucoup échangé sur les réseaux sociaux avec nos consommateurs. Et c'est là qu'on a vu, effectivement, que c'était bizarre pour eux de se dire, je vais coller un pain solide sur mon scalp, concrètement comment je fais en fait, ça mousse comment? Et là effectivement on apporte des nouveaux assets de communication via l'influence qui eux justement peuvent apporter cette pédagogie, ils ont le temps, ils ont les bons mots et effectivement en sus des assets de com traditionnels et de la pub, c'est assez génial.
Et ceux qui ont envie de vous dire comment on fait pour éviter le greenwashing, bonne question.
Alors la transparence évidemment, mesurer ce qu'on fait. Nous, c'est vrai que chez L'Oréal, on est tout repose sur les analyses de cycle de vie. Donc, quand on vous dit qu'une technologie hautement rinçable, comme un shampoing solide, vous permet de réduire de 30% votre consommation en eau, c'est étayé. On a 100 ans de recherche et développement derrière nous. On a 8 centres de recherche en France. Donc voilà, nous, la science chez L'Oréal, c'est vraiment au cœur du modèle. Donc, je pense qu'il y a déjà donné des chiffres, donné de la transparence.
C'est vrai que pour nous, c'est un gros challenge dans l'automobile parce que parfois on a un peu l'impression de parler dans le désert. C'est vrai que finalement on se retrouve à innover, on est probablement un des secteurs qui innovent le
justement,
plus.
Justement, Lionel Fuschio, on va parler effectivement de votre nouveauté, on va revenir à vous. Vous avez lancé la IONIQ 6, une berline 100% électrique. Vous avez notamment travaillé l'aérodynamisme. Vous avez également travaillé avec des matériaux, pareil, des matériaux recyclés. On parle de pneus recyclés, on parle de charbon de bambou. Justement, quelle communication faites-vous à vos clients avec ces nouveaux matériaux ?
En fait, on a plusieurs challenges finalement face auxquels nous sommes. Il y a évidemment la partie production de la voiture, que ce soit sur la partie batterie ou sur la partie des matériaux qui constituent le véhicule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important pour nous, on parlait de tissus il y a quelques minutes, les tissus qui habillent le véhicule, les tissus des sièges aujourd'hui...
Une moquette en filet de pêche recyclé, là aussi pêche, ça voilà, arrive chez les constructeurs.
Donc pour arriver à faire que l'impact finalement, et là aussi on parle de CO2, de la production du véhicule soit la plus faible possible, parce que c'est vrai qu'évidemment... Les détracteurs de l'automobile électrique vous diront à juste titre que produire une voiture électrique, ça pollue plus que de produire une voiture thermique.
Qu'est-ce que vous leur répondez, Lionel ?
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un vrai challenge en fait sur la communication et sur comment on évite le greenwashing. Parce que c'est vrai que quand on vend des voitures, le greenwashing arrive assez rapidement.
Je le rappelle, 21%, c'est effectivement les émissions de gaz à effet de serre au niveau national concernant la filière automobile en France.
Donc c'est important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est... Produire une voiture électrique, ça pollue plus que produire une voiture thermique. Mais à l'usage, finalement, entre la production et l'usage, une voiture électrique, ça pollue moitié moins qu'une voiture thermique. Donc, c'est pas zéro pollution, mais c'est 50% mieux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. L'ADEME dit aujourd'hui 22 tonnes de CO2 pour un véhicule thermique, 9 tonnes pour un véhicule électrique, pour 150 000 km. On voit bien que il y a des manières différentes de présenter les chiffres et parfois en fonction des positions qu'on a. Donc ça nécessite pour nous de beaucoup communiquer. Évidemment, les réseaux sociaux et les influenceurs jouent aussi leur rôle pour arriver finalement à démontrer la pertinence de ce qu'on fait. Et ça fait nous maintenant 4 ans ou 5 ans que la moitié de nos budgets communication aujourd'hui sont dédiés à l'électrique, au 100% électrique, quand il ne pesait encore l'année dernière que 10% de mes ventes. Donc cet effort de pédagogie, c'est pas simplement, j'irais, une forme de volontarisme. Il y a aussi l'économique derrière qui arrive, parce qu'on voit bien que la massification de notre communication est importante pour relever ces challenges.
Et chez Hyundai, vous avez une nouveauté également sur la technologie hydrogène. On parle de Vision 74, la première voiture hybride hydrogène. Vous avez investi combien ?
L'hydrogène, c'est plusieurs milliards, on va dire, de dollars d'investissement au niveau du groupe. Parce que notre conviction, c'est que dans la mobilité, l'électrique à batterie sera pas l'unique solution technologique. Et donc, on pense que l'hydrogène, notamment pour des usages intensifs, répond
à l'hydrogène vert, surtout.
Exactement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, on a un véhicule hydrogène qui roule aujourd'hui, qui est Nexo. Ouais. Et on continue à investir sur cette techno qui va répondre à des usages pour demain.
Maintenant, on va passer de nouveau de retour dans la mode. Pour décarboner, on voit qu'en France, le pass est la seconde main. Et vous, Laurent Milchior, dans le groupe Etam, vous avez fait une incursion avec Petit Geste, Joli Soutien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel bilan vous en tirez ?
Alors, Petit Geste, Joli Soutien, c'est on demandait à nos clients de ramener leur soutien-gorge usagé. Ensuite, on les reconditionnait auprès des ATS et on les distribuait à des femmes dans le besoin où c'était réutilisé pour faire de l'isolation, etc. On a récupéré 75 000 soutiens-gorge suite à cette opération. Je pense que on a aussi lancé un corner seconde main de lingerie à Lyon. Donc, c'est le premier corner de lingerie en seconde main avec un très bon démarrage. Ensuite, ça s'est un petit peu tassé. Je pense qu'il y a encore un sujet culturel d'acheter sa lingerie en seconde main. En tout cas, les soutiens-gorge, les culottes, on le fait pas encore aujourd'hui. Je pense que la seconde main, c'est bien, c'est un moyen, mais faut pas rêver. C'est un moyen aujourd'hui. La seconde main, elle est d'abord plébiscitée pour le prix. Et dans toutes les études qu'on voit, une cliente qui achète de la seconde main, la plupart du temps, c'est qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle a pas trop le choix. Et donc, du coup, elle va consommer de la seconde main. Il y a un peu de CSP+. Il y a un peu bobo qui adore ce concept de seconde main. Ça marche bien pour les enfants parce que la durée de vie du produit est relativement courte parce que les enfants grandissent. Moi, je pense que ce qui est important dans les industries, en fait, c'est de valoriser le progrès. En fait, c'est-à-dire pour pas faire de greenwashing, il faut mesurer, mais il faut valoriser le progrès. Parce que le 100% green, il existe pas encore. On doit tous essayer d'y converger, mais le 100% green, c'est la déconsommation. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut pas être dans un mode de déconsommation. En tout cas, pour faire tourner l'économie. Et donc, c'est de valoriser absolument ce progrès année après année, et de mesurer. Et c'est vrai que quand le législateur s'en mêle, et il l'a fait d'abord dans l'automobile. Ça a accéléré de manière absolument incroyable la décarbonation de l'industrie automobile, d'où les Dieselgate et compagnie qu'il y a eu, parce que le secteur était plus loin que la technologie ne pouvait avancer quelque part. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une baisse de la consommation drastique des automobiles. C'est en train de rattraper les autres industries. Si on prend la loi AGEC en ce qui nous concerne, donc du coup de valoriser non plus la matière principale comme c'était le cas en textile, hein, puisqu'en textile sur une étiquette de composition, en fait, on parle de la matière principale. Ça veut dire que dans un soutien-gorge, concrètement, la coque n'est pas la matière principale, parce que c'est pas celle qui est visible et c'est pas une matière textile. Et donc elle peut être carbonée, elle peut être non green. Et pour autant, on va dire que notre soutien-gorge il est green, puisque la matière principale, c'était la règle. Aujourd'hui, la loi AGEC, on dit c'est le poids. C'est logique, en fait. Mais du coup, ça
aujourd'hui,
veut dire que
c'est beaucoup une grosse contrainte, déjà, pour le rappeler pour nos téléspectateurs et auditeurs. La loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui s'applique depuis le 1er janvier et qui repose sur 5 piliers, notamment la fin du plastique jetable, une meilleure information sur les consommateurs, donc on en revient à la traçabilité, une lutte contre le gaspillage, lutte contre l'obsolescence programmée et effectivement une meilleure production. Donc aujourd'hui, concrètement,
aujourd'hui on va mesurer le poids du produit et donc du coup son vrai impact finalement, parce que l'impact en CO2 ou en produit recyclé c'est sur son poids, ce qui fait que nous ça nous donne d'autres challenges, puisque les coques de soutien-gorge pour entrer dans le tas, ils sont en polyuréthane. Aujourd'hui il n'y a pas de polyuréthane recyclé qui existe, donc c'est soit on baisse en niveau de qualité mais sur toutes les marques de lingerie, soit on trouve des solutions alternatives, et donc on travaille aujourd'hui à trouver des solutions alternatives pour ce polyuréthane, et donc ça fait évoluer la filière aussi par le législateur, même si c'est extrêmement contraignant.
Donc c'est un véritable casse-tête. On espère trouver vite une alternative.
Après, il faut une homologation internationale, parce que si chaque pays va de sa règle, ça va être un petit peu compliqué dans des métiers comme les nôtres. Alors que l'automobile, il y a quand même une uniformisation des législations par continent.
Effectivement, je voudrais terminer également avec vous, parce qu'on en parle très peu, quoi faire pour le futur. Ça fait également partie de vos nouvelles tendances chez L'Oréal concernant les professionnels donc de la coiffure et de la coloration. On vous y attend, on vous y oublie, mais pas du tout. Concrètement, Elodie Bernardi, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, alors c'est vrai que chez L'Oréal, on a quatre divisions, et une des divisions, c'est la division des produits professionnels. Donc c'est tous les produits et services qui sont vendus dans les salons de coiffure. Et c'est une division qui nous passe très près du cœur chez L'Oréal, parce que c'est la division dans laquelle on est né. Et effectivement, pour nous, c'est aussi notre seule division B2B. Et donc pour nous, c'était hyper important, encore une fois, d'avoir de l'impact et du coup d'engager aussi les coiffeurs dans cette transition. Donc c'est pas uniquement ce qu'on peut proposer comme éco-conception du catalogue, Kérastase, L'Oréal Professionnel, Matrix, Redken, etc. C'est aussi comment on peut accompagner nos coiffeurs. Donc déjà, c'est les sensibiliser, leur dire qu'ils ont de l'impact. Effectivement, un salon de coiffure, c'est 180 mètres cubes d'eau par an. Donc c'est beaucoup. Ouais. Et cette eau, elle est chauffée. Donc on a un impact eau et énergie. Et il y a aussi un impact déchets dans les salons de coiffure. Et donc on a créé ce programme Coiffeur pour le futur avec ces deux grands piliers, eau et déchets, pour justement aider nos coiffeurs.
Combien
donc,
avez-vous de coiffeurs partenaires?
Alors, des coiffeurs en France, il y en a 60 000. Vous dire qu'il y en a 100% qui sont chez nous, ce serait vous mentir, mais on en a une grande partie. 60 000, c'est énorme.
En tout cas, le mien,
c'est
il ne m'a pas éclatif. Proposé de shampoing solide. Hein.
Et moi,
non, alors
ils sont pas
encore dans les salons de coiffure, mais vous avez des recharges. Non, en revanche, on a collaboré avec une start-up suisse qui s'appelle Gyoza, qui a élaboré une nouvelle génération de douchettes qui permet de réduire la consommation d'eau d'un salon de 61%. On a fait un test dans 300 salons de coiffure depuis janvier de cette année. Des tests qui sont hyper concluants. Les coiffeurs sont assez emballés. Il faut un peu changer le geste, mais honnêtement, c'est pas la révolution pour eux. Et effectivement, ils font des économies significatives, même des économies financières, c'est-à-dire en consommation d'eau.
Est-ce que dans vos produits, justement, pour les professionnels, on peut lancer une gamme sans rinçage?
On peut tout à fait l'imaginer. On a déjà des soins sans rinçage dans les salons de coiffure. Vous avez un soin très iconique de Kérastase qui s'appelle le ciment thermique et qui s'applique sur cheveux humides et qui ne se rince pas. Il existe déjà.
Lionel, pour terminer un peu avec vous, concrètement, aujourd'hui, chez Hyundai, vous placez où le curseur en termes d'innovation, en termes de décarbonation? Vous travaillez l'aérodynamisme, vous travaillez l'usage des matériaux, vous êtes sur l'hydrogène, vous êtes également avec les tissus et les plastiques intérieurs, pareil, vous êtes en PET recyclé, vous êtes en filet de pêche, vous travaillez avec la canne à sucre, avec des huiles végétales dans les peintures, des plastiques. Où on place le curseur aujourd'hui chez Hyundai pour faire la différence sur un marché où la voiture électrique, voilà, est très concurrentielle?
Pour moi, enfin, il faut pas imaginer que les choses sont faites. C'est-à-dire que sur un marché où aujourd'hui, par exemple, l'essence est très chère, malgré tout, le poids des voitures électriques cette année, ça va être, je dirais, à peu près 15% du marché. Donc on reste quand même sur des marchés niches. Donc le travail reste à faire, en fait. Et donc l'impact maintenant, notre capacité à vraiment améliorer les choses, c'est comment on fait grandir ce marché-là le plus rapidement possible. Alors c'est vrai qu'il y a, le législateur nous a mis une barrière à 2035 où on n'aura plus le droit de vendre des voitures thermiques à partir de cette date-là. Mais ma conviction, notamment sur les marchés d'Europe de l'Ouest, c'est que d'ici à 2030, en fait, le marché aura basculé par anticipation. Ce sera probablement un peu plus dur sur d'autres marchés d'Europe. Mais l'idée, c'est finalement comment on va bien plus vite que ce que le législateur propose. Et sur des marchés comme le marché français, parce que aussi il y a des réglementations locales en plus des réglementations européennes un peu plus contraignantes.
Ce que disait Laurent Milquin, il faudrait un peu homogénéiser.
Ça permet finalement de saisir d'opportunités d'accélération. Et donc c'est vrai que ça c'est vraiment l'enjeu localement en France. Comment moi en tant que responsable de ma filiale française, je suis capable d'aller bien au-delà du marché et surtout bien au-delà des contraintes européennes.
Merci beaucoup. Un mot de la fin très rapidement à vous trois, Laurent Milquin.
Je pense que c'est le point essentiel en fait, c'est que les consommateurs comprennent en fait, parce qu'on s'aperçoit nous sur nos produits que la partie coup de cœur elle est absolument essentielle. Finalement le produit c'est un marqueur social en fait, et nos clientes, même les plus jeunes, alors qu'elles sont très impliquées sur ces sujets de RSE, lors du choix en fait elles disent ma priorité en fait c'est le coup de cœur. Et donc je pense que c'est aussi la responsabilité des marques de faire évoluer le marché
et malgré la
période qu'on a devant nous qui va être plus compliqué en termes de pouvoir d'achat, de continuer ces projets, de continuer à éduquer la clientèle pour que toutes ces industries elles progressent et que du coup dans les pays émergents, la fast fashion des pays émergents soit green aussi et que du coup tout le monde soit logé à la même enseigne, même les marques qui sont importées.
Avec les singularités et respect. Malheureusement, voilà, c'est déjà terminé. Merci infiniment à vous trois. Je le rappelle, Laurent Milquin, vous êtes le co-gérant du groupe Etam. Elodie Bernardi, la directrice du développement durable de L'Oréal France. Et bien évidemment, Lionel Frenchkio, le PDG de Hyundai Motor France. Merci infiniment à vous trois d'avoir répondu présent.
Merci.
Pour cette spéciale.
Merci,
et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.